Bien, bonjour à chacun. Donc il ne vous a pas échappé. Il marche le micro ? C'est moi qui suis trop loin ? Et comme ça. Ah oui, voilà. Donc il faut être plusieurs pour la technique. Ouais. Donc je répète ce que les deux premiers rangs ont entendu déjà. C'est que là, il est vraiment prêt. Là. Donc je disais, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui nous fêtions Noël. Et prêcher le jour de la fête de Noël, c'est toujours un défi. Un défi parce que déjà c'est un sujet important. La naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, parler de ça, c'est pas rien. Et puis c'est un défi aussi parce que on a tous en tête plein d'images sur Noël. Marie, Joseph, l'étoile, les bergers, les mages, la myrrhe, l'encens. Enfin bref, on a comme ça en tête tout plein d'images qui sont parfois des clichés. Et ces clichés, parfois, nous éloignent de l'essentiel. Et ce que je vous propose ce matin, justement, c'est un retour à cet essentiel. Et puis en même temps, quand j'ai vu mon nom sur le planning de prédication du 22 décembre, je me suis dit, bon, je vais prêcher le jour de Noël. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de nouveau ? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'intéressant, justement, sur Noël, pour vous intéresser ? Alors je suis retourné au texte, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, qui sont les deux évangiles qui parlent précisément de la naissance de Noël. Et puis peu à peu, ma réflexion m'a guidé sur l'évangile de Luc. Et puis il y a un épisode qui a particulièrement intéressé, qui m'a attiré mon attention, qui m'a inspiré, si je puis dire, c'est la rencontre entre Marie et l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui a annoncé à Marie la naissance de Jésus, qu'elle allait être enceinte et puis ensuite sa naissance. Et puis l'évangile de Luc est particulièrement intéressant parce que Luc a bien sûr écrit l'évangile de Luc, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, mais a aussi écrit les actes des apôtres. Et dans les actes des apôtres, eh bien, il est aussi question de Marie. Ça veut dire que Luc a rencontré Marie et très certainement, eh bien, il a dû l'interroger, Marie, sur comment ça s'est passé, comment elle a appris la naissance de Jésus, quels étaient les événements. Et donc ça veut dire que le témoignage de Luc, qui tenait les informations directement de Marie, ce témoignage est particulièrement intéressant. Et donc je vous propose de lire ce matin Luc 1, versets 26 à 56, où justement eh bien, on est à la rencontre entre l'ange Gabriel et puis Marie. Mais avant la lecture, juste un survol de ce qui s'est passé avant. L'ange Gabriel, c'est sa deuxième intervention, il est déjà intervenu une fois, l'ange Gabriel auprès de Zacharie qui était prêtre et qui est aussi le père de Jean-Baptiste. Et l'ange Gabriel est intervenu auprès de Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc la rencontre a lieu dans le temple et Gabriel a dit « Ben voilà, tu vas être papa d'un Jean et que nous on appellera ensuite Jean-Baptiste ». Et puis Zacharie a douté. Il a douté parce que Élisabeth, sa femme, était avancée en âge, comme dit le texte, et elle n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Et donc face à ce doute, Gabriel lui répond la chose suivante. L'ange Gabriel lui dit « Tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront le moment voulu. » Et le moment voulu, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Et on en est là dans le récit, justement, quand l'ange Gabriel, qui était occupé dans cette période de Noël, eh bien, intervient aussi auprès de Marie. Et je vous invite à lire, comme c'est écrit là, Luc 1, versets 26 à 56. Le sixième mois, donc le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Et il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié les biens et les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Voilà, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire que si vous n'êtes pas familier de la Bible, eh bien, le texte se trouve à la page 660, voilà, ce qui vous permet de lire également. Et j'ai déterminé 3 axes à cette prédication. Le premier axe, eh bien, c'est de voir comment Dieu confie la mission à Marie. Et le deuxième axe, c'est si Dieu a choisi Marie, c'est parce qu'il a mis en avant eh bien, son humilité et puis son obéissance. Et enfin, le troisième axe, qui est un gros morceau, c'est que là, déjà, on voit que Jésus est à la fois homme et Dieu. Ça sera ma troisième partie. Alors, dans un premier temps, pour la première partie, voir comment Dieu confie à Marie sa mission, eh bien, c'est intéressant d'avoir en tête que l'annonce de la naissance de Jésus a été annoncée par les prophètes. Et par exemple, 2 prophètes majeurs de l'Ancien Testament, comme Ésaïe et Jérémie, eh bien, ont annoncé la naissance de Jésus. Alors, Jérémie, c'était 700 ans avant la naissance de Jésus, et puis Jérémie, c'était 700 ans Ésaïe, 600 Jérémie. Voilà. Tout ça pour dire quoi ? C'est-à-dire que dès l'Ancien Testament, eh bien, l'annonce de la naissance de Jésus a été faite. Et c'est important pour 2 raisons. C'est important d'avoir ça en tête pour 2 raisons. D'abord, ça nous montre la cohérence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça nous montre, je trouve, la force du texte. Et ça renforce la confiance que l'on peut avoir aussi dans la parole de Dieu. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir en tête que la naissance de Jésus a été annoncée dans l'Ancien Testament, et que ça nous permet de connaître le contexte dans lequel Marie a rencontré l'ange. Le peuple juif, et donc Marie bien sûr avec lui, connaissait ces prophéties et était en attente de la naissance de celui qui allait les libérer et les sauver. Alors les libérer et les sauver de quoi ? C'était sans doute pas très clair pour l'ensemble des Hébreux, cela d'autant plus qu'à cette période-là, la terre d'Israël était occupée par les Romains, et donc beaucoup s'imaginaient que l'arrivée de Jésus, l'arrivée du Messie, eh bien, allait les libérer politiquement, c'est-à-dire qu'il allait les libérer de la puissance des Romains. Mais ils attendaient le Messie. Et ce sauveur, justement, eh bien, comme l'a rappelé Jean-Marc dans la lecture de tout à l'heure, s'appelait le Messie. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Et l'attente était longue pour le peuple d'Israël, parce que ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé. Et tout au long des récits de l'Ancien Testament, eh bien, Dieu s'était exprimé par l'intermédiaire des prophètes. Et là, rien. Rien depuis 400 ans. Et c'est dans ce contexte d'attente eh bien, que l'ange annonce à Marie la naissance de Jésus. Alors je vous propose simplement de prendre 2 exemples de prophètes de l'Ancien Testament, enfin 2 exemples d'Ésaïe. Dans Ésaïe 7, verset 14, « La Vierge sera enceinte, mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Et ça c'est un verset qui est relativement connu parce que ce verset est repris dans l'évangile de Matthieu. Et puis un deuxième passage dans Ésaïe 9, Ésaïe également, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. et étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. » Donc à partir de ces textes, les Israélites savaient que le Messie serait le Sauveur, qu'il apportera la paix, la justice, la sécurité et qu'il règnera. Et c'est tout ça qu'ils attendaient, et Marie comme les autres du peuple hébreu. Et l'attente était forte, encore une fois, parce que Dieu avait été silencieux pendant 400 ans. Et c'est vraiment une très longue période. Et puis, une information aussi à souligner, c'est que par ce passage, on voit que le Messie devait être un descendant du roi David. Et ce qui est le cas, puisque Joseph était lui-même un descendant du roi David. Et c'est dans ce contexte que l'ange rencontre Marie. Alors, il y a peu d'exemples où un ange s'est adressé directement à un homme, et encore moins où il s'est adressé directement à une femme, sans intermédiaire. Et à ma connaissance, le seul précédent est l'apparition d'un ange à la mère de Samson, c'est-à-dire 1000 ans avant l'intervention de Gabriel. Et c'était déjà pour annoncer une naissance, qui était bien sûr la naissance de Samson. Et le fait que l'ange Gabriel vienne montre qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Silence de Dieu pendant 4 siècles, et là, tout se passe comme si Dieu avait dit à l'ange Gabriel, « Allez, c'est maintenant, il faut y aller. Va voir Zacharie, va voir Marie. » Et la rencontre de l'ange avec Marie est donc un événement plus qu'exceptionnel. La plupart du temps, Dieu communiquait à son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Et quand un ange intervient, ce qui est arrivé plusieurs fois, même si c'était rare, dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu voulait communiquer directement à un homme ou à une femme dont le destin était particulier. Et les anges sont les messagers de Dieu. Alors Luc nous dit que l'ange Gabriel intervient 2 fois. Tout d'abord auprès de Zacharie, comme je l'ai raconté tout à l'heure, à qui il dit « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu ». Gabriel se présente de cette manière-là à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ». Et puis, bien sûr, il intervient auprès de Marie. Et aussi, Jean-Marc l'a lu tout à l'heure, un ange est apparu au berger et on peut penser aussi que c'est l'ange Gabriel qui est intervenu. Et il est rare que le texte nous donne le nom de l'ange, Gabriel. Et Gabriel signifie « homme de Dieu » ou « force de Dieu ». Et c'est un nom qui renvoie justement à son rôle de messager. Et l'ange Gabriel est une vieille connaissance, si je puis dire, du peuple d'Israël, parce qu'il est déjà intervenu auprès de Daniel, la Bible nous en parle, et l'ange a expliqué une vision que Daniel avait eue. Et ça, c'était 500 ans avant. Et de fait de savoir que c'est l'ange Gabriel qui intervient, ça permet de faire un pont, là aussi, de voir la cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors l'ange, comme je l'ai dit, s'adresse directement à Marie. Et si je souligne ça, c'est que ça n'avait pas été le cas pour l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. L'ange s'était adressé à Zacharie. Et Zacharie, c'était un homme, et en plus, il était prêtre. Et il n'était pas intervenu auprès d'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Marie, elle, n'a pas de fonction particulière dans le clergé hébreu, c'est une femme tout à fait ordinaire. Et avec ces deux situations, vous voyez, une situation où l'ange intervient auprès de Zacharie, qui était prêtre, et la situation où l'ange intervient directement auprès de Marie, donc il s'est passé 6 mois, et en ces 6 mois, c'est comme si une étape du plan de Dieu était franchie. Dans l'Ancien Testament, le prêtre était l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Dieu était présent dans le temple, et seul un prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints où était présent Dieu. Et en s'adressant directement à Marie, il n'y a plus d'intermédiaire. Voyez, Dieu s'adresse directement à l'homme avec un grand H. Et la différence entre ces deux situations est pour moi le symbole d'un nouveau type de relation que Dieu va proposer à l'homme. Une relation directe est possible avec Dieu. Et n'importe quel homme et n'importe quelle femme peut justement être en contact avec Dieu. Avec la présence de Jésus sur terre, les hommes et les femmes de cette époque pouvaient s'adresser directement à Jésus. Après sa mort et sa résurrection, c'est à nous que Christ rend possible le lien direct avec Dieu. Et qui que l'on soit, Christ nous permet un accès direct au Père. Et le fait que l'ange s'adresse directement à Marie, qui est Dieu en fait, qui s'adresse directement à Marie, c'est comme un prémisse d'un nouveau type de relation que Dieu propose. Ce que je trouve aussi émouvant dans ce passage, c'est que cette annonce de la naissance de Jésus est ancrée dans le réel. la rencontre entre l'ange et Marie se fait sans faste particulier, et il y a un décalage entre le contenu du message, annoncer l'arrivée du Messie, et puis l'environnement dans lequel se déroule la scène, qui est au fond d'une grande banalité. Et je trouve que Luc ancre l'annonce faite par l'ange dans le réel. Vous voyez, le passage commence par des informations temporelles, au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. On connaît le lieu, Nazareth, on connaît le nom des protagonistes, Marie, Joseph. Et je trouve que ça souligne comment cette annonce extraordinaire s'inscrit dans le quotidien des hommes. L'ange a un nom, Gabriel, on sait aussi que Joseph est charpentier. Et la naissance de Jésus est annoncée dans un environnement concret, réel, dans notre humanité profonde. Nazareth existe, c'est une vraie ville dans laquelle on peut aller, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Ce n'était pas un lieu magique, issu d'une légende, d'un lieu mythique ou mythologique. Non, c'est un vrai lieu avec des vrais gens, c'est Nazareth. Et vous voyez, même si 2000 ans nous séparent de ces personnes, eh bien, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Eh bien, ils nous ressemblent. Et je trouve que cette annonce est à l'image de la relation que Dieu veut mettre en place avec l'humanité. L'apôtre Paul dira que nous sommes des vases d'argile qui contiennent la gloire de Dieu. Et je trouve que cette scène de l'annonce de la naissance de Jésus, eh bien, relève de la même logique. La gloire de Dieu descend dans le quotidien des hommes, nous rejoint dans notre quotidien. Nous servons un Dieu accessible qui connaît la réalité de notre humanité. Je voudrais aussi souligner que Dieu ne laisse pas Marie seule avec cette grossesse qui sort de l'ordinaire. Et il y aurait eu pourtant de quoi se sentir seule. Comment dire à quelqu'un qu'elle porte le Messie sans passer pour une folle? Comment dire à quelqu'un qu'elle a eu cet enfant sans relation avec un homme, sans passer pour une fille de mauvaise vie? Elle aurait eu de quoi se sentir seule. Mais Dieu ne l'a pas laissée seule. Et il lui a donné une alliée. Et une alliée qui vivait aussi quelque chose d'extraordinaire. Élisabeth, une grossesse qui a eu lieu pendant sa vieillesse. Élisabeth est cette alliée qui a sans doute aidé Marie dans sa grossesse. Tout d'abord, lorsque les deux femmes se rencontrent, Élisabeth lui confirme à Marie son appel. Elle prophétise sur le rôle de Marie et de son enfant. Elle appelle Marie la mère de mon Seigneur. Et ensuite, d'un point de vue pratique, il n'y avait pas mieux qu'une femme enceinte pour comprendre une autre femme enceinte. Et en plus, Élisabeth avait 6 mois d'avance de grossesse sur Marie. Donc elle avait déjà cette expérience. Et moi d'ailleurs, en tant qu'homme, eh bien, je suis émerveillé de la complicité qui existe entre deux femmes enceintes dans leur conversation ou entre les femmes qui ont été enceintes. Et là, c'est un conseil à mes jeunes frères, c'est pas la peine d'intervenir, de vous poser des questions, il faut juste écouter. Et je trouve que c'est une marque de la bienveillance de Dieu. Je trouve qu'il n'y avait pas d'autre allié qu'Élisabeth, femme enceinte, qui pouvait soutenir Marie, qui était aussi une femme enceinte. Et puis en plus, il y a un truc incroyable, c'est que les deux savaient que ça allait être des garçons. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Donc c'était les deux seules personnes à savoir qu'elles allaient attendre un garçon. Donc j'imagine eh bien, que ça a dû alimenter les conversations et que ça devait renforcer les liens entre les deux. Alors Dieu ne nous demande pas de faire des choses aussi extraordinaires de ce qu'il a pu demander à Marie. Mais je crois que c'est important aussi d'avoir en tête qu'il nous apporte le soutien nécessaire à nos engagements, le soutien nécessaire à nos prises de risques avec le Seigneur. Il nous apporte d'une manière générale un soutien adapté. Ça a été le cas pour Marie, mais c'est aussi vrai pour nous. Et Dieu nous apporte le soutien de nos engagements. Encore, faut-il le laisser agir, comme Marie a laissé Dieu agir. Je vous propose maintenant de nous intéresser à Marie. Marie, c'est le choix de l'humilité et l'obéissance. Si Dieu avait voulu que Jésus naisse et grandisse dans un milieu socialement élevé, il l'aurait fait naître dans un palais. Jésus a choisi de faire naître Jésus dans un milieu pauvre. Et la pauvreté du lieu de naissance de Jésus est souvent quelque chose que l'on souligne au moment de Noël. Et on parle, vous savez, de la mangeoire où l'enfant a été déposé parce qu'il n'y avait plus de place pour eux à l'hôtel. Tout ça, c'est quelque chose que l'on connaît et qu'on souligne. Et cet environnement modeste eh bien, est cohérent avec le plan de Dieu. L'intention de Dieu est que Jésus soit accessible au plus grand nombre, que chacun ose aller lui parler, que tout le monde ose aller le rencontrer. Et Jean-Marc, encore une fois, dans le passage qu'il a lu tout à l'heure, on s'est souvenu que les anges sont intervenus auprès des bergers et les bergers sont allés le voir, Jésus. Je relis un passage que Jean-Marc a lu. « Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » Et le milieu modeste de Jésus, son lieu de naissance modeste, eh bien, a permis aux bergers de venir le voir. Son lieu de naissance l'a rendu accessible. Et l'intention de Dieu a bien été que Jésus soit accessible au plus grand nombre, aussi bien des mages, comme on peut le lire dans l'évangile de Matthieu, que des bergers. Et dans ce contexte, Dieu ne pouvait pas faire d'autre choix que des personnes comme Marie et Joseph. Avec Marie, Dieu a fait le choix d'une personne humble et pauvre, et ça s'inscrit dans le plan de Dieu. Marie est une personne ordinaire à qui Dieu a confié une mission extraordinaire. Et même si c'est une personne ordinaire, sa foi, elle, est remarquable. Parce qu'on voit souvent le caractère des personnes à la manière dont ils réagissent aux imprévus. Parce qu'aux imprévus, eh bien, on réagit avec son caractère, avec ce que l'on a appris, comme on est. Et Marie, elle, connaît un imprévu de taille, hein, en rencontrant l'ange. Et je trouve que cet imprévu, eh bien, met en lumière sa foi simple et confiante. Elle montre qu'elle a conscience qu'avec Dieu, tout est possible. Quand l'ange lui annonce cette nouvelle incroyable, elle ne lui explique pas que ce ne sera pas possible, qu'elle n'est pas qualifiée pour cette mission, que Dieu devrait choisir quelqu'un d'autre, que c'est sympa d'être venu la voir, mais que franchement, que là, non, il vaudra mieux prendre quelqu'un d'autre. Voyez, et je trouve que c'est d'autant plus remarquable que, si vous vous souvenez de Moïse, dans un autre registre, eh bien, quand Dieu est intervenu auprès de Moïse pour lui dire ben « voilà, c'est toi qui vas conduire mon peuple », Moïse a opposé 4 arguments. 4 fois, il lui a dit, écoute, Dieu, moi, j'arrive pas à parler, je sais pas faire, enfin, voilà, c'est vraiment pas mon truc, demande à quelqu'un d'autre. Au point que, finalement, Dieu s'était énervé, s'était mis en colère contre Moïse, et finalement, Moïse a obéi. Et là, je trouve que Marie pose simplement une question pratique. Comment ça sera possible? Vous voyez, c'est pas défilé, elle a assumé sa responsabilité. Et sa réaction est d'autant plus remarquable que d'autres personnages bibliques, de grands hommes et de grandes femmes, comme Moïse, eh bien, ont eu une réaction un peu de fuite. Hein, Sarah, quand elle a appris, femme d'Abraham, quand elle a appris qu'elle allait avoir un enfant dans sa vieillesse, elle a ri. Elle ne croyait pas. Zacharie, lui aussi, a douté. Marie, non, pas du tout. Elle est ouverte à ce que l'ange Gabriel lui propose. Et elle réagit avec simplicité et confiance, mais aussi avec de la curiosité. Et au verset 34, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Et sa question porte, au fond, sur le respect de la loi, parce que les relations sexuelles avec un homme ne sont permises que dans le cadre du mariage, alors que Marie se demande comment faire vivre la prophétie si elle n'est pas mariée. Comment faire pour que la prophétie se réalise sans transgresser la loi? Et elle pose simplement une question pour mieux comprendre ce qui va se passer. Elle ne cherche pas non plus à aider Dieu en prenant elle-même les choses en main, non, elle laisse Dieu agir. Et je trouve intéressant, c'est de voir que finalement, l'ange attend la question de Marie pour lui donner une information essentielle. La naissance miraculeuse. Et là, l'ange Gabriel lui répond, « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu auras un enfant sans relation avec un homme. » Et ce que je trouve beau presque, c'est que l'ange, finalement, donne des informations au rythme de Marie. Il attend qu'elle lui pose sa question pour lui donner une autre information supplémentaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur, au fond, dans cet échange. Et c'est à l'image de la bienveillance de Dieu. Je crois que nous avons à apprendre de Marie, laisser Dieu agir, s'en remettre à Dieu, lâcher prise, comme André dans sa prédication l'a dit la semaine passée, et comme Marie, avoir une foi simple et confiante. Verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et si Marie réagit de cette manière-là, eh bien c'est qu'elle fait preuve, ce que j'appelle une humilité équilibrée. Et là aussi, elle nous sert de modèle, parce qu'elle est à la fois consciente qu'elle vit quelque chose d'incroyable, d'unique, qu'elle a été choisie parmi toutes les femmes, et en même temps, elle sait qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire pour ça. Elle ne dit pas, d'une part, à l'ange de choisir quelqu'un d'autre, ce qui serait quelque part un excès d'humilité, et elle assume pleinement la responsabilité que l'ange lui confie, sans se vanter, c'est ce qu'elle aurait pu le faire aussi auprès d'Élisabeth. Non, elle accepte sa responsabilité, simplement. Et là aussi, c'est un exemple, je crois, pour chacun d'entre nous. Parce que si le Seigneur nous a donné des qualités, des compétences, des dons, eh bien, assumons-les simplement en les mettant à son service. Tout en sachant, tout en ayant en tête, eh bien, que c'est un cadeau de Dieu. Et je trouve que ce comportement d'humilité équilibrée, est parfaitement illustré par le verset 48. Si les générations me disent heureuse, c'est parce que l'Éternel a fait de grandes choses pour moi. Pour terminer sur cette partie, je voudrais revenir sur la louange de Marie qui commence au verset 46. Marie loue le Seigneur en faisant référence à l'Ancien Testament et particulièrement au psaume. Elle replace son histoire personnelle dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancien Testament. Et finalement, ça me fait penser que Marie a deux socles, deux fondations, deux fondements pour accepter la mission que Dieu lui donne. Le premier pilier, c'est que Marie est préparée en connaissant les textes de l'Ancien Testament. Sa louange s'appuie sur les psaumes. Et ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier est qu'elle laisse l'Esprit Saint s'exprimer en elle. Elle laisse Dieu agir. Et là aussi, c'est un bon enseignement pour nous. Parce que ça nous rappelle l'importance de connaître les textes, l'importance de connaître la Bible, pour se préparer au service. Et aussi, ce deuxième pilier, c'est de laisser l'Esprit Saint agir en nous. Et ce sont les deux piliers de la préparation à l'engagement. La connaissance de la parole et puis laisser agir l'Esprit. Et l'un ne va pas sans l'autre. Troisième partie, un gros morceau. Jésus, fils de Dieu et homme. Ouais, ça pourrait faire l'objet de plusieurs prédications. Et c'est vrai que Jésus, à la fois comme homme et Dieu, ce n'est pas une idée facile à appréhender, parce que c'est un cas unique, il n'y a pas d'autres cas comme Jésus, à la fois homme et Dieu, et ce n'est pas facile à appréhender par nos esprits humains. Et on constate cette ambivalence, homme et Dieu, eh bien, dès la naissance de Jésus. Déjà, il y a une double filiation, je l'ai déjà mis. Tout au long de ce passage, il est question de cette double filiation de Christ, à la fois divine et aussi humaine. Gabriel dit à Marie, eh bien voilà, cet enfant, tu vas le nommer Jésus. Et donner un nom, c'est une manifestation d'autorité. Et là, c'est Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, qui nomme son fils Jésus. Ça signifie l'Éternel sauve. Et ce n'est ni Marie ni Joseph qui donnent à Jésus son nom, mais Dieu. C'est bien le signe qu'il est le fils de Dieu. Et dans le passage que l'on a lu, de l'annonce de la naissance, eh bien Joseph est quelque part un absent envahissant. Pourquoi il n'est pas mentionné dans le récit ? Et ça nous montre que le père de Jésus est bien Dieu. Joseph a un rôle effacé. Il intervient de manière ponctuelle, mais de manière déterminante auprès de l'enfant Jésus. Mais ici, là, dans ce passage, au moment de l'annonce de la naissance, Joseph est complètement absent. Il est absent et pourtant, la généalogie de Jésus passe par lui. J'ai déjà eu l'occasion de dire que les prophètes avaient annoncé que le Messie serait un descendant du roi David. Eh bien, ce qui est le cas, parce que Joseph est lui-même un descendant de David. Et la naissance de Jésus s'inscrit à la fois dans une généalogie humaine, Joseph, descendant de David, et aussi une généalogie divine. Et par la généalogie, eh bien, on a cette double nature de Jésus, à la fois Dieu et à la fois homme. Alors, en quoi c'est important de savoir ça ? Eh bien, comme Jésus est à la fois homme et Dieu, et c'est le seul, lui seul est qualifié pour établir un pont entre Dieu et nous. Et c'est d'ailleurs sa mission, hein, ouvrir un chemin qui mène au Père et nous permettre d'avoir avec Dieu une relation sans intermédiaire. C'est le rôle de médiateur dont Jean-Marc a parlé tout à l'heure au moment de la Sainte Cène. Deuxième aspect de la mission de Jésus, eh bien, c'est de nous guérir du péché. Alors pourquoi, au fond, faire naître Jésus de manière miraculeuse, sans relation entre Joseph et Marie ? Parce qu'au fond, si Jésus est un homme, porté dans sa croissance de nourrisson par une femme, comme tout autre être humain, pourquoi ne pas faire remonter le processus de création, de procréation, eh bien, jusqu'à la relation sexuelle, au fond ? Pourquoi commencer au moment de la grossesse et pas avant, si je puis dire ? Et Jésus aurait été encore plus homme, si je puis dire. En fait, le péché est entré dans la création par Adam, qui au départ a été créé saint, mais qui a désobéi à Dieu. Et c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé pour l'homme. Puis cette désobéissance à Dieu, eh bien, s'est transmise de génération en génération, cette désobéissance qu'on appelle le péché. Et elle s'est transmise jusqu'à nous aujourd'hui et elle nous survivra, hein, au-delà de notre génération jusqu'au retour de Christ. Et ça m'est déjà arrivé d'entendre des choses confuses à ce sujet, de confondre sexualité et péché. Et si Christ ne connaît pas le péché, ce n'est pas parce qu'il a été conçu sans rapport sexuel, ce qui est juste, mais parce qu'il n'a pas hérité du péché de Joseph et le péché de ses parents. La chaîne, quelque part, la chaîne de péché a été rompue. Il y a eu une interruption parce que Jésus est né justement de manière miraculeuse. Même si Jésus a intégré la généalogie de Joseph, il n'a pas tout pris dans sa généalogie, et il lui a laissé le péché. Jésus est saint. comme Adam a été saint en son temps. Sauf qu'Adam, lui, a désobéi, il a tourné le dos à Dieu. Alors que Jésus, lui, a obéi jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Alors il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et le fait qu'il soit sans péché, eh bien, lui donne autorité pour nous sauver de notre péché. Et c'est en ça, justement, que Jésus est sauveur. Parce qu'il a autorité pour nous guérir de nos péchés. Alors aujourd'hui encore, le chemin que Jésus a ouvert est encore accessible. Le chemin que Jésus a ouvert il y a plus de 2000 ans est encore accessible. Et c'est important de pas négliger son appel aujourd'hui encore. Alors pour conclure, je voudrais vous raconter une petite histoire. J'ai écrit ces dernières lignes dans un salon de thé. C'est chic. Voilà, vous apprenez que je fréquente les salons de thé. C'est mieux que les bars, oui, c'est ça. Non, c'était un salon de thé. J'étais en avance à un rendez-vous et je me suis dit, tiens, posons-nous, si je puis dire. Et vous savez, dans la semaine qui précède une prédication, on est un peu monomaniaque. Un quart d'heure, vite, je m'y mets. Ben voilà, j'étais en avance sur un rendez-vous et donc je m'installe à un salon de thé, je commande un café et puis il y a une dame qui s'assoit à la table à côté de la mienne. Et elle commande deux chocolats et puis deux viennoiseries. Elle s'installe et puis elle installe face à elle eh bien, son chocolat et sa viennoiserie. Puis elle attend. Et elle attend. Et puis rien. Et donc elle commence à sortir son téléphone, à envoyer des messages, à appeler. J'imagine la personne qu'elle attendait. Et puis rien. Et puis rien. Et j'imagine que le chocolat allait refroidir, même que sans doute était froid. Et j'y suis resté 45 minutes. Et pendant 45 minutes, eh bien, la personne a attendu. Ça se trouve peut-être qu'elle y est encore dans ce salon de thé, j'en sais rien. Mais en tout cas, les 45 minutes où j'y étais, eh bien, elle est restée toute seule. Et vous voyez, je faisais un parallèle, justement. Eh bien, Noël est une invitation de la part de Dieu. Et Jésus nous a rejoints dans notre lieu de vie, sur la terre, mais surtout dans notre quotidien. Et il nous propose eh bien, de nous asseoir à sa table, parce qu'il veut nous rencontrer. Et Noël est une invitation, une rencontre, proposée et espérée par le Créateur de l'univers. Alors que nous soyons chrétiens engagés, ou que nous soyons au fond simples sympathisants, eh bien, nous avons à répondre à cette invitation. Elle est personnelle, et le Seigneur nous attend. Et je nous invite vraiment chacun à répondre à cette invitation avant que justement le chocolat refroidisse, si je poursuis la métaphore. Et je finis par ce verset, donc le verset 30, « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». C'est vrai que cette phrase s'adresse à Marie, mais si vous la relisez en mettant votre prénom à la place, cette phrase, eh bien, ce verset s'adresse à chacun d'entre nous. Amen.